France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 5 février 1916, dans une ville de Zurich qui accueille tous les jeunes Européens assez fortunés pour fuir la guerre, s'ouvre un lieu insolite, qui fermera seulement 6 mois plus tard, pour, je cite, « tapage nocturne et tapage moral ». Rempli de tableaux, animé de récitations et manifestations en tout genre, où se mélangent artistes et écrivains dans un cosmopolitisme total, le cabaret Voltaire est un lieu inédit qui connaît un succès fulgurant. Les noms de ses créateurs ne vous diront sans doute rien. L'écrivain Hugo Ball, la danseuse et poétesse Amy Hennings, ou encore le peintre roumain Marcel Ionco participent à créer ce lieu devenu depuis mythique. Mais il y a un nom qui se dégage du reste, et qui marquera l'histoire de la pensée occidentale du XXe siècle. Celui de Tristan Tzara. Car le cabaret Voltaire n'est pas qu'un lieu de divertissement et de délectation. C'est la matrice même du dadaïsme, le lieu qui l'a vu naître. Tzara s'en va ensuite à Paris, où il est accueilli presque triomphalement par les surréalistes, avec lesquels il finira par se brouiller de multiples fois. Ce numéro de Photogramme de Jean-Marie Gerbeau, réalisé par Alain Barou et diffusé pour la première fois le 14 novembre 1962 sur France 3 Nationale, retrace l'itinéraire explosif de ce penseur et poète hors norme, qui a consacré sa vie à subvertir les normes bourgeoises et artistiques. Avec la participation de Roger Blin, Pierre Leproux, Pierre Delbon, René Farabé, Jean-Pierre Lituac, Yves Penaud, Pierre Constant et Anne Pérez, cette émission donne à entendre de nombreux textes et retranscriptions plus ou moins fictives de conversations de Tzara. Un portrait du père du mouvement Dada, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Passage du surréalisme. Fait fuir le brouillard devant lui-même. André Breton, Paul Éluard.
RTF France 3 Nationale présente Photogramme. Aujourd'hui, Tristan Tzara, par Jean-Marie Gerbeau, avec le concours de Roger Blin, Pierre Leproux, Pierre Delbon, René Farabé, Jean-Pierre Lituac, Yves Penaud, Pierre Constant, Anne Pérez.
Dada, abolition de la logique.
Dada, abolition de la mémoire.
Dada, abolition du futur.
Dada, trajectoire d'une parole jetée comme un disque sonore cri.
Liberté, dada, dada, dada. Hurlement des couleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences. La vie.
Nous sommes en 1916. La guerre fait rage sur tous les fronts. Au cœur de l'Europe déchirée, la Suisse constitue une oasis de paix, un refuge de silence. La voix de Romain Rolland s'élève au-dessus de la mêlée. À Zurich, 3 jeunes hommes, soulevés d'indignation, décident de mettre en accusation ce monde absurde qui se rue vers la mort. 3 jeunes hommes, pleins de feu, brandissant à main nue la foudre et le sarcasme. Un peintre alsacien, Hans Arp,
qui portait une brioche dans la narine gauche.
Un poète allemand, Hülsenbeck, et un étudiant roumain
qui jouait aux échecs avec Lénine
et qui se nommait
Tristan Tzara.
Ils se réunissent le soir dans une brasserie qui porte le nom symbolique de Cabaret Voltaire,
fondée par un réfugié allemand nommé Hugo
Ball,
comme une balle de fusil.
À Zurich, dans la brume de l'adolescence, je me vois éclore dans la lumière d'œuf. Oh, mes jeunes années! La guerre faisait rage, la route tournait en rond. Je tournais sauvage, disque sans chanson. Autour de moi, la vie tournait, battant de l'aile.
Pour donner un nom à leur révolte, ils n'allèrent pas chercher de référence dans Échille ou Juvénal. Ils s'en remirent au hasard.
Il nous faudrait un dictionnaire.
Demande à Hugo Ball, je crois qu'il en a un. Tiens, voilà.
Ouvre-le n'importe où. Qu'est-ce que tu lis?
Dada.
Dada.
Ce mot, on va le jeter à la face du monde. Ce monde retombé en enfance, pour lui faire honte.
Et c'est avec ce nouveau hochet que vous espérez faire trembler le monde?
Bayonnette au canon, tirez sur tout ce qui bouge! En avant!
Les foyers éteints, le rire édenté, les places écrasées, la vieillesse harcelée, profilé dans l'âtre, toute la misère pour marcher dessus, les chevaux éventrés dans l'arène des têtes, les volets volés, les maisons ouvertes, les enfants dehors, les paroles de paille pour seule vérité, le froid aux entrailles, le fer dans la neige, brûlant dans la gorge.
Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait des mains chaudes de tendresse?
Dada, déclarera Jean Cassou.
Dada fit une explosion à l'état pur, une explosion sauvage qui atteignait le régime humain dans son mécanisme le plus essentiel, le langage.
Il a tant regardé le soleil que son visage s'aplatit. Wahaha, wahaha, wahaha. Monsieur le poète avait un nouveau chapeau de paille, qui était si beau, si beau, si beau.
C'est sans doute de ce fameux chapeau qu'on extrait au petit bonheur, selon la recette de M. Zara lui-même, les mots qui serviront à composer vos impérissables poèmes dada.
Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux, découpez ensuite avec soin chacun des mots, agitez doucement, copiez consciencieusement. Le poème vous ressemblera. Et vous voilà. Un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire.
La première manifestation publique a lieu le 30 mars 1916 à Zurich, sur la scène du Café Voltaire. Elle est consacrée à la musique nègre. Le 30 mai suivant paraît la première revue Dada. Le Cabaret Voltaire, 1916. On y trouve les noms de Guillaume Apollinaire, de Picasso et de Modigliani, à côté de ceux de Blaise Cendrars et du futuriste italien Marinetti. Et puis, c'est en juillet la première œuvre imprimée de Zara, dont le titre, qui allie d'une façon sarcastique le vocabulaire médical à l'emphase littéraire, fera bientôt le tour du monde.
Première aventure céleste de Monsieur Antipyrine. Dada n'est pas folie, ni sagesse, ni ironie. Regardez-moi, gentil bourgeois. L'art était un jeu. Les enfants assemblaient les mots qui ont une sonnerie à la fin. Puis ils criaient et pleuraient la strophe et lui mettaient les bottines des poupées. Et la strophe devint reine pour mourir un peu. Et la reine devint baleine. Et les enfants couraient à perdre haleine. Puis vinrent les grands ambassadeurs du sentiment qui s'écrièrent historiquement en chœur « Psychologie, psychologie, hi hi. Science, 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 vive la France !»
Andumba, Atritriloulo, Ankogunda, il y a une grande auréole où les vers circulent en silence. Car les vers et les autres animaux ont aussi des peines, des douleurs, des inspirations. Les chevaux se sont pendus à Bucarest en regardant Bogo qui monte sur ses bicyclettes, tandis que les cheveux télégraphiques s'enivrent. Des oreilles du ventriloque débordent quatre ramoneurs qui crèvent ensuite comme des melons. Un mauvais garçon est mort quelque part, et nous laissons les cerveaux continuer. La souris court en diagonale sur le ciel. La moutarde coule d'un cerveau presque écrasé. Nous sommes devenus des réverbères.
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 Puis, ils s'en allèrent.
Paris, pour l'instant, ignore encore tout de Dada. 1917, c'est l'année sombre de Verdun. La littérature de guerre sévit, outrancière et revancharde à souhait. Apollinaire revient, blessé à mort d'un éclat de grenade à la tête. Picabia écrit:
Apollinaire aurait certainement été Dada, comme Duchamp et moi, s'il n'était mort prématurément.
La disparition du poète au front étoilé jette une ombre sinistre sur la victoire qu'on s'apprête à fêter.
Pas de pitié. Il nous reste, après le carnage, l'espoir d'une humanité purifiée. Je vous dis, il n'y a pas de commencement, et nous ne tremblons pas. Nous ne sommes pas sentimentaux. Nous déchirons au vent furieux le linge des nuages et des prières et préparons le grand spectacle du désastre, l'incendie, la décomposition.
Ce grand spectacle, c'est d'abord en Allemagne qu'il se donne. Le mouvement Dada s'y répand comme une traînée de poudre. Paris, au contraire, a la tête encore assourdie des pétards de la victoire. La jeune poésie se cherche. Mais voici qu'une nouvelle revue, tenue sur les fonts baptismaux par Valéry lui-même, se tourne avec curiosité vers Dada. Elle s'appelle Littérature.
Non, pas littérature. Littérature.
Exact, comme une rature qui va tout effacer et rendre la page blanche. Page où vont maintenant s'écrire les noms de Breton, d'Aragon, de Soupeau, auprès de ceux de Reverdy et de Max Jacob, leurs aînés.
Chaque page doit exploser, soit par le sérieux profond et lourd, le tourbillon, le vertige, le nouveau, l'éternel, par la bague écrasante, par l'enthousiasme des principes, ou par la façon d'être imprimé. Voilà un monde chancelant qui fuit, fiancé au grelot de la gamme infernale. Voilà de l'autre côté des hommes nouveaux, rudes, bondissants, chevaucheurs de hoquet.
On pourrait croire avec le recul que le courant Dada est venu se jeter comme un affluent dans le grand fleuve surréaliste. Pas du tout. En 1918, le surréalisme n'existe pas. Le groupe Littérature a les yeux tournés vers Zurich. On appelle Zara, on attend Zara, on se prépare à recevoir Zara. Son sourire timide et son déjà célèbre monocle retenu en guise de cordon par un large ruban moiré flottant comme une oriflamme au vent du combat.
Enfin, son entrée coupe court à toutes ces bonnes vieilles discussions qui usaient chaque jour un peu plus les pavés de la capitale. Il ne compose pas, si peu que ce soit, avec les fractions arriérées.
Proclame André Breton. Et tout de suite avec l'arrivée de Zara, commencent les spectacles provocations qui ont fait 3 ans plus tôt à Zurich les beaux jours du cabaret Voltaire. Au premier vendredi de littérature, le vendredi 23 janvier 1920, le chahut est si intense qu'on ne s'entend plus.
Les vrais Dada sont contre Dada! Tout le monde est directeur de Dada!
Au deuxième vendredi, le 5 février 1920, au Salon des Indépendants, on a annoncé la présence de Charlie Chaplin. Pure mystification. Le public en a néanmoins pour son argent, puisqu'il n'y a pas moins de 38 conférenciers.
Plus de peintres, plus de littérateurs, plus de musiciens, plus de sculpteurs, plus de religions, plus de républicains, plus de royalistes, plus d'impérialistes, plus d'anarchistes, plus de socialistes, plus de bolcheviques, plus de politiques, plus de prolétaires, plus de démocrates, plus de bourgeois, plus d'aristocrates, plus d'armées, plus de police, plus de patrie. Enfin assez de toutes ces imbécilités. Plus rien, 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 rien.
Bien entendu, les gens de sens racis s'indignent. Georges Desparbès visite l'exposition Max Ernst.
Avec le mauvais goût qui les caractérise, les dadas ont fait appel cette fois au ressort de l'épouvante. La scène était dans la cave et toutes les lumières éteintes à l'intérieur du magasin. Ils montaient par une trappe des gémissements. Un autre farceur, caché derrière une armoire, injuriait les personnalités présentes. Les dadas, sans cravate et gantés de blanc, passaient et repassaient. André Breton croquait des allumettes.
Pas craquer, croquer.
claquaient des allumettes. Croc, croc.
Ribemont de Seigne criait à chaque instant « Il pleut sur un crâne ». Aragon miaulait, Philippe Soupeau jouait à cache-cache avec Sarah, tandis que Benjamin Perret, Charchoun se serrait la main à chaque instant.
Le 13 mai 1921, salle des sociétés savantes, c'est le fameux procès Barrès, organisé par André Breton, contre l'avis de Tzara d'ailleurs. Pourquoi Barrès? Parce que l'auteur de l'appel aux soldats, l'homme de la ligne bleue des Vosges, leur paraît symboliser ce qu'ils exècrent. Cette littérature de sang fabriquée à l'arrière par des stratèges en pantoufles.
La parole est à l'accusateur public. Dada, estimant qu'il est temps pour lui de mettre au service de son esprit négateur un pouvoir exécutif et décidé avant tout à l'exercer contre ceux qui risquent d'empêcher sa dictature, accuse Maurice Barrès de crime contre la sûreté de l'esprit.
Faites entrer le témoin Tzara.
Vous conviendrez avec moi, monsieur le président, que nous ne sommes tous qu'une bande de salauds, et que par conséquent, les petites différences, salaud plus grand ou salaud plus petit, n'ont aucune importance.
Le témoin tient-il à passer pour un parfait imbécile ou cherche-t-il à se faire interner?
Cette passe d'armes entre Tzara et Breton marque le début d'un désaccord qui durera des années. Anathème et excommunication vont d'ailleurs se succéder, disloquant les groupes à mesure qu'ils se constituent, soulevant des tempêtes qui souvent ne sont que des feux de paille. Breton ne va pas tarder à lancer son retentissant « Lâchez tout !»«
Lâchez tout !» Lâchez Dada, lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse, lâchez vos espérances et vos craintes, semez vos enfants au coin d'un bois.
Le surréalisme a pris forme. Il est prêt à voler maintenant de ses propres ailes et bien entendu, il commence par renier ses origines. Tzara se voit rejeté. On l'accuse d'avoir voulu détourner le mouvement.
Picabia, Duchamp, Picasso nous restent. Je vous serre les mains, Louis Aragon, Paul Éluard, Philippe Soupeau, mes chers amis de toujours.
Il y aura d'éclatantes réconciliations, de nouvelles brouilles, de nombreux manifestes, de retentissants chahuts. Il y aura aussi l'amour.
Autour de moi, la vie tournait battant de l'aile. Étais-je lion en cage ou passereau des bois? Et que poussait en moi ce désir de courage, par le cri de ce jour qui rejoint ma démarche? Je découvrais l'amour. Un sentiment aigu dont on ne sait le nom, double ma détresse, souligne le sillage, question illimitée, un souffle insensible. Maintient à la surface mon être indocile, les vagues complotaient la perte du navire, et tout était juré pour le laisser sombrer. 1000 ans passèrent, l'éclair d'un jour d'été, vierges immolées sous la blancheur du mythe, en a-t-on discouru sur la sagesse folle? Les armes dédiées aux vanités du doute, je vais à la rencontre d'une innocence nue, je suis à la croisée de mes ans confondus. Jamais je ne dirai assez la tendre force, le sens velouté des phrases un peu sourdes. Paul, je pense à toi, nourrice des étoiles. Ma jeunesse alors coulait à fond perdu, la rue du cherche-midi et la rue ordinaire. Nous cherchions midi au coup de 14 heures. Sur les grands boulevards, aux sorties des bureaux, les filles et les garçons s'enlaçaient, s'en allant. Comme des gifles, la beauté me frappait au visage. Je ne savais où donner du regard. De tous côtés à la fois affluaient les jeunes filles, offrant dans leurs cheveux le printemps tout entier. Il y en avait de grandes, de rousses et de brunes, et toutes étaient jolies. Les belles de jadis sont aujourd'hui grand-mères, et à travers leurs rides, il n'y a que moi qui sache redécouvrir la grâce inscrite dans leur rire, la poussière vive des rêves endormis.
Ces confidences de l'âge mûr mettent en lumière l'un des traits les plus constants de la personnalité de Tzara, l'absence de complaisance à l'égard de soi-même, une certaine rudesse même, et une très haute exigence qui, lorsqu'elle ne peut se satisfaire, se moque. Tel est, très justement nommé par lui, l'homme approximatif.
Qu'importe le dégoût, puisque notre force est plus ininflammable que la mort, et son ardeur ne détruira ni nos couleurs ni nos amours, coquillages et moellons stratifiés dans des étages de proverbes. Le sens est le seul feu invisible qui nous consume. Depuis l'origine du premier chiffre, les aviculteurs parlent un langage simple, formé d'un alphabet d'oiseaux au blanc dehors. Blanc est le doigt que les penseurs ont tant frotté contre leurs tempes. Nous ne sommes pas des penseurs. Nous sommes faits de miroirs et d'air, et quand même insatisfaits, obscurs, moroses, imperméables. Les dents de scie qui ornent notre front voisinent avec la mort et sautent d'une chose à l'autre tout le long du dictionnaire, frottant les dents du ciel, battant le linge à la rivière. Vomis des blanches crêtes, le brouillard se coagule parmi nous, et bientôt serons-nous pris dans la matière dense et boueuse, bientôt serons-nous absorbés par la spongieuse léthargie du fer qui dépasse de la longueur d'une douloureuse litanie la bière et le mensonge, surgit de quel glacier mordant dont le blanc dehors, gargarisme de nuages, suce aux racines de notre iris le miel des siècles à venir. Flétrie de la synthèse, l'insoumise tonique, et fleurie en boucle libre de peau, haute entaille de mur, hante la mort quotidienne, ma journée est frêle d'insomnie, rit de face et pleure à l'envers.
Tout au long de ce long poème, écrit vers 1925, revient, comme un leitmotiv, ce rit de face et pleure à l'envers, qui est l'une des clés de l'univers poétique de Zara.
Ris de face et pleure à l'envers, car dehors est toujours blanc, et comme la truite peinant contre le courant, sautant les barrages en sens inverse des chutes, tu remontes ta grisonnante jeunesse jusqu'où le soleil a déposé ses œufs. Et si de chaque lueur placide émerge une frétillante auréole de salut, on ne sait quelle marée haute de magie se lance à la conquête des nouveaux points de retour. Ainsi ramasses-tu dans des filets d'ombre les rudes volontés qui passent leur vie à mourir de travers et les morts continuelles qui n'arrivent pas à mourir. L'homme trait l'éternelle soustraction de chaque tranche en lui-même qu'il lui reste à mûrir de sa dette noire envers les durs soleils. Rit de face et pleure à l'envers.
Cette volonté d'absolu ne pouvait évidemment se satisfaire d'un langage démonétisé, non plus que des lieux communs et du confort intellectuel.
Lève tes yeux plus haut que les alluvions des graves neiges. Lève tes yeux là où les mâchoires claquent de tant de rigide clarté. Quelle plume écrit l'étrange lettre circulaire de l'horizon plaintif que tes yeux du centre chassent au plus confus et lointain des sens. Il se lève vers l'éternelle incandescence qui assourdit l'apparence des choses et leur simulacre d'héroïsme. Nous avons déplacé les notions et confondu leurs vêtements avec leurs noms. Aveugles sont les mots qui ne savent retrouver que leur place dès leur naissance, leur rang grammatical dans l'universelle sécurité. Bien maigre est le feu que nous crûmes voir couver en eux dans nos poumons, et terne est la lueur prédestinée de ce qu'ils disent.
Ceux qui ont pris dada pour la simple expression d'une violence aveugle commencent à comprendre que cette colère vengeresse est parfaitement dirigée. Une de ses cibles favorites est la fausse profondeur de pensée, la fausse philosophie qui abrite ses mauvaises raisons derrière l'écran de fumée des mots. Voici M. A., l'antiphilosophe.
Capitaine, les bolides, les forces ouvertes de la cascade nous menacent. Le nœud des serpents, le fouet de chêne, avancent triomphalement dans les pays contaminés de fureurs perpétuelles. Capitaine! Toutes les accusations des animaux maltraités, en morsures au-dessus du lit, baillent en rosaces de sang. La pluie des dents de pierre et les taches d'excréments dans les cages nous ensevelissent dans des manteaux interminables comme la neige. Capitaine, les clartés du charbon devenant phoques, foudres, insectes sous tes yeux, les escadrons d'hallucinés, les monstres à roues, les cris des somnambules mécaniques, les estomacs liquides sur des tablettes d'argent, les cruautés des fleurs carnivores envahiront la journée simple et rurale et le cinéma de ton sommeil. Capitaine, prends garde aux yeux bleus.
Toute pose aussi est odieuse à Zara. Regardons entrer le poète tel qu'il l'a dépeint dans Mouchoir de nuage.
Tragédie en 15 actes.
Acte 9. Une forêt. Sur le décor est écrit en gros caractères « Monologue ». Le poète s'avance, un loup dans la main.
Vivre, mourir, à droite, à gauche, debout, couché, en avant, en arrière, en haut, en bas. Pourquoi cette gymnastique à propos d'un mal qui n'a rien de corporel? Je l'aime. Ah oui, malheureusement, et à quelle distance? Ah, les îles me préparent bien des surprises, les îles, ces plats imprévus émergeant du flot bleu, sur lesquels la fantaisie affamée se jette à défaut d'autres assouvissements plus charnels. Et mon cœur n'est-il pas un énorme restaurant où tout le monde mange à sa faim sans payer les additions et les 10% de pourboire? Mais à quoi bon? Je voudrais pouvoir me déchirer les méninges pour voir, comme à l'intérieur d'un jouet, le mécanisme de mon amour pour elle. Moi, qui n'ai jamais aimé.
Il met le loup.
Ainsi je reste épave du quotidien naufrage. L'amour me cache les yeux du cœur et du cerveau. Les poissons rapaces, les monstres des nuages, les haines, les douleurs, les crises, les horreurs, les vices, les microbes et les mauvais génies me frappent, m'humilient, me mordent et déchirent l'allure préparée avec des soins propices que je devrais porter ce soir au bal de l'opéra. Et tout cela pour deux yeux bleus et pour le five-o'clock-tea que le crépuscule offre au printemps dans des tasses de porcelaine invisibles comme les étoiles.
Il fredonne la violettera. L'orchestre reprend l'air en sourdine et le continue jusqu'à la moitié de l'acte 10. Il sort. Le décor et l'éclairage changent. Les commentateurs reprennent leur place.
Ces commentateurs qui vont jouer de façon caricaturale le rôle du chœur antique.
La chanson est fort belle. Elle est d'ailleurs authentique, étant donné qu'elle vient de l'Amérique du Sud.
Vous êtes toujours frivole.
Mais oui, il a raison. Car il s'agit évidemment de la valeur poétique, ou plutôt humaine, dans laquelle le poète a habillé son désespoir. Je parle du moment à partir duquel il a mis le masque sur sa figure pour se cacher à soi-même le côté invraisemblable d'un pareil langage.
Moi, savez-vous, je ne crois à rien.
Alors rien n'a plus d'importance. Vous pouvez dire caoutchouc et penser chrysanthème. Ah, où allons-nous? Au lieu de se féliciter d'un si pur et si classique effort auquel il nous fut permis de participer.
Moi, savez-vous, je ne crois à rien.
Taisez-vous donc, votre scepticisme est stérile. Mettez-vous à sa place. Il a besoin de prendre la poésie pour une réalité, et la réalité pour du mirage.
Quant à moi, si je ne savais d'avance quelle tournure l'auteur a donnée à sa pièce, je n'hésiterais pas une seconde à proclamer que la poésie est un produit négligeable de la folie latente et qu'elle n'est aucunement nécessaire à la marche ascendante de la civilisation et du progrès.
En effet, pour nombre d'esprits dits « réalistes », la poésie n'est aucunement nécessaire à la marche ascendante de la civilisation et du progrès. Et comme ces esprits sont également des constructeurs, cela nous conduit tout droit à cet univers parfaitement mécanisé et parfaitement irrespirable qui déjà se profile à l'horizon. Un indicateur des chemins de cœur sera bien utile au voyageur sentimental qui s'égarera dans ce labyrinthe.
Entre les trames bridées d'une robuste légende, mon vers hésite au-delà des pas. La route me happe à l'étincelant tournant dans les mailles chaotantes où le mal engrenant engloutit la clé de ma raison errante. mal vide, abandonnée dans la brumeuse hôtellerie du sort. Sur les routes, faut-il que je les parcours toutes? Qui n'a pas encore trouvé sa dalle, arrosoir de mélancolie? Pourquoi t'ai-je quitté de la prodigieuse tristesse marquée, que tu guérisses aussi vite que la parole du lumineux est vraie? L'oiseau à trace de nuit, élaboré, tête de flèche, a glissé plaintif archet le long du rail. La nuit a éteint la vive distance en berne, versant des seaux de terre entre nos éveils de flammes, se dresse. Je ne puis pas t'écrire. Je suis trop sale du mélange de sommeil, de suie, que le train a agité pendant toute la nuit, dans la bouteille de la nuit. Et pourtant les paysages juxtaposés aux solennelles indécisions des hanches, par mille détours de croupissantes ciselures, te feraient comprendre qu'entre l'amour et la maudite coïncidence, j'ai planté le grain de ton savoureux chagrin. Mais nous sommes si éloignés de la chantante étreinte qui unit à l'amitié la chair flexible de destin. Les couloirs des wagons sont sales, les coussins se durcissent sous nos têtes comme nos têtes, et le pouvoir de celui qui nous envoie à travers le monde en longue file d'orages migrateurs, dans ses canaux et ses trains de calcinants sortilèges, annonce l'éclipse des voix au thermomètre de nos veines. Voix à nos veines, chahutées, basculées, sursauts que la balance entraîne. Mais quelle obscurité soudain enlève les couleurs comme des chemises, leurs chemises aux collines voluptueuses. La lumière de tes cheveux étouffe dans le tunnel. Et le tunnel.
Personne avant Zara, personne aussi bien que Zara, n'avait su rendre le malaise qui saisit l'homme devant ce monde inhumain. Ses premiers poèmes ont le rythme saccadé, l'emphase incohérente des films muets. Est-ce pour cela qu'il a donné à l'un de ses premiers recueils le titre de « Cinéma calendrier du cœur abstrait » devenu plus tard « Cinéma calendrier du cœur abstrait, maison ». On ne sait si c'est le monde qui éclate ou si c'est l'homme écartelé qui se disloque, comme ces saltimbanques qu'on voit virevolter dans ce vertigineux poème.
Les cerveaux se gonflent, s'aplatissent.
Des ballons lourds s'épuisent, s'aplatissent.
Les voyelles sont des globules blancs.
Les voyelles s'allongent, s'allongent.
Nous rendent horloge, s'accrochent.
Et voilà, une lumière court, le long des cordages.
Fumée sort de la tête de l'équilibriste.
Ma tante est accroupie sur le trapèze dans la salle de gymnastique.
Ses tétins sont des têtes de hareng.
Elle a des nageoires et tire, tire, tire l'accordéon de son sein.
Elle tire, 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 tire l'accordéon de son sein, glawawa, prorahab.
Dans les petites villes, le soleil couve sous les charrues devant l'auberge.
Neuf, 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 tataï.
Les petits pètent en regardant les bagages du cirque.
Où il y a des poux.
Et des grands-mères. Couverte de tumeurs molles, c'est-à-dire de polypes.
Le malaise qui vous prend à la gorge quand à 20 ans on découvre que le monde n'est pas fait pour l'homme et que la société qu'on vous propose, il vous faudra pour y vivre, avec ou sans masque, abandonner le meilleur de vous-même. Ce malaise débouche soit sur la révolte, c'est le cas de Jacques Vacher, soit sur le suicide. Ce sera le choix de Crevel. Zara, lui, cherchera une autre issue. Déjà, sa colère se tempère de tendresse.
Que penseras-tu le soir, lorsqu'étendu sur la rive, l'infatigable ronron qu'un sort ultime mou, entre les pierres de sa serrure parmi la feuille sèche, tout près de tes oreilles, fera sourdre de ce monde et la douce pâleur et le creux souvenir. Que feras-tu le soir que penché sur un songe, poursuivant des paroles les occultes ébats, ou leur fuite subtile sous les mornes de cendres, pour toi seul invisible, le signal viendra se frayer le chemin parmi les chemins de lumière. Il te dira le soir qu'écoutant à la porte, impatient de toutes les inépuisables frayeurs, l'aveugle qui frappe à la porte porte l'aveuglement à tout ce qu'il voit, et touche le front sonore sur le pas de la porte.
Vers la même époque, 1930, une note de mélancolie un peu sourde, un peu verlainienne, se met à vibrer d'une manière insolite et fugace dans cette œuvre puissamment virile.
Malgré l'ombre que poursuit l'ombre en moi des longues flammes, quand des lieux plus bas qu'oublie, j'ai conquis à la clarté des larmes. Lente, lente, sans tristesse, sont partis les incrédules. Sous le toit, plus de serments, plus de femmes dans les voies, plus de soirs, qui sait leur mine dédaigneuse à franchir. Plus de soirs entre les doigts coulent pour amasser fortune. Comme l'eau a gardé dans la main qui tremble un instant une confiance dans le feu insaisissable.
Tout aussitôt paraît Où boivent les loups, l'un des poèmes les plus célèbres, où l'on retrouve ce thème du feu insaisissable et rénovateur, cher à Zara. Par où je passe à passer le fer rouge.
Par où je passe à passer le fer rouge, et les yeux rongés au feu des larmes ont passé par le sang et le lion, ô rigide. Nul vent n'a tressailli plus avant dans la nuit que la dette obscure. Le marché de soleil est entré dans ta chambre, et la chambre dans la tête bourdonnante. Mûrir les amorces du désarroi que de plus craintives ont jetées sur terre, chaude défaillance d'une nuit de chantier, vivre son indifférence toute. Plus nombreuses en moi les vies se figent, et d'envolée en envolée j'ai perdu la trace de leur peur, rien que désir dans la fourmilière palpant l'astre. La faim n'a pas encore brûlé en moi les dures stations où j'ai lavé les pieds meurtris. Leurs courses désordonnées ont pris racine en tête, et des grumeaux de terre et de sève coagulés s'arrachent avec les touffes indécises de jeunesse.
C'est l'époque où Aragon, retour d'un congrès en URSS, se sépare avec éclat du groupe surréaliste après avoir publié Front Rouge. Pour Zara, il n'est pas encore question d'engagement au sens strict du terme. Et d'ailleurs, il n'écrira jamais de poèmes militants. Mais depuis quelque temps déjà, sa position n'est plus celle de la révolte individuelle. Il oppose en effet à la poésie moyen d'expression la poésie activité de l'esprit, et c'est cette dernière qu'il voudrait pouvoir soustraire à la pression de l'événement. Mais en 1935, le surréalisme garde encore intacte sa valeur explosive et demeure la meilleure voie d'accès à ces abîmes de la conscience tourmentée qu'on vient seulement de découvrir. Juillet 1936. La guerre d'Espagne. Federico Garcia Lorca, en qui toute l'Europe saluait la plus brillante incarnation de la nouvelle poésie, tombe sous les balles d'un peloton d'exécution.
À Federico Garcia Lorca, quel vent souffle sur la solitude du monde pour que je me rappelle les êtres chers, frêles désolations aspirées par la mort, au-delà des lourdes chasses du temps. L'orage se délectait à sa fin plus proche que le sable n'arrondissait déjà sa hanche dure. Mais sur les montagnes, des poches de feu vidaient à coup sûr leur lumière de proie, blême et courte, tel un ami qui s'éteint, dont personne ne peut dire le contour en paroles, et nul appel à l'horizon n'a le temps de secourir sa forme, mesurable uniquement à sa disparition. Ouvre-toi, cœur infini, pour que pénètre le chemin des étoiles dans ta vie innombrable comme le sable et la joie des mers, qu'elles contiennent le soleil. Dans la poitrine où brille l'homme du lendemain, l'homme d'aujourd'hui sur le chemin des étoiles de mer, a planté le signe avancé de la vie, telle qu'elle se doit de vivre, le vol librement choisi de l'oiseau jusqu'à la mort, et jusqu'à la fin des pierres et des âges, les yeux fixés sur la seule certitude du monde, dont ruisselle la lumière, rabotant au ras du sol.
2 ans en Espagne aux côtés des républicains, et puis le nazisme déferle sur le monde. Fidèle à son engagement, Zara prend une part active à la résistance.
Rien n'empêchera que des étoiles fragiles descendent parmi nous dans la mer de grillons où nous sommes plongés, et la fraîcheur attendue dans la force de l'innocence. Quelle sonne l'heure grave où le sommeil lui-même ne saurait pénétrer. Tant l'appel irrésistible de l'aube s'annonce frémissant pour la terre qui nous porte et la nourriture de la révolte, que l'unique feuille d'arbre de la conscience dresse la tête, et tant qu'il fera jour au creux des pins tendus, l'insecte lent du réveil tourne la rose des croissances. Un avenir, une croyance, la sauge, le fenouil, la brise dans le mûrier et la conduite de l'homme sur la voie de sa maîtrise. Mais déchirant, déchiré, frère du vent, tu te faufiles dans nos demeures les plus secrètes, où vit toujours debout le brin d'herbe, celui qui luit et nous conduit comme une lanterne dans l'obscurité de la lutte. Je t'ai reconnu, mon frère, entre toutes les présences, témoin d'une grave intimité entre la joie et la déroute. Sur la braise de la vague phosphorescente du matin, tu brilles déjà la crinière en feu, ô taciturne.
Autour d'un tombeau aimé, il y a de sèches prisons. Au bout de ce long tunnel de 9 ans creusé à même la boue de l'histoire, se dresse sur l'aube si lente à se lever, la face d'un autre poète supplicié, Robert Desnos.
Pour Robert Desnos. Dans le blanc de ma pensée, hurle un merle, l'herbe chante sur la ville décapitée, siffle l'air subite du sang, d'où s'ébranle l'arbre mûr, mendiant de lumière. Mademoiselle, voulez-vous? Et la mort montre sa montre, des dents vides aux bracelets, et les os de 1000 témoins. Mademoiselle, voulez-vous? Le bois mort des fortes mâchoires ferme doucement la marche. À la tête, un seul espoir. Dans la tête, une forêt. Par le brisement d'étoiles, j'ai connu la mélodie d'où se lève la mémoire. Il n'y a plus de voix sonnante dans Paris pavé de feuilles. Un été manque à l'appel. Je suis seul à le savoir. Oubliez vos fils, vos mères, la jeunesse, les printemps, les baisers des amoureuses, l'or du temps. Un nom nu voltige encore dans les nuits autour des lampes, et le poing serré des villes dresse jusqu'au cœur du jour cette lumière, cette révolte que l'on offre aux passants dans la paume de la main, celle du monde. Dans les bras que vague emporte, un oiseau rien de plus, sauf la colère, un visage à ma fenêtre, une joie flotte, mon secret, ma raison d'être et le monde.
RTF France 3 National vous a présenté Photogramme. Aujourd'hui, Tristan Tzara par Jean-Marie Gerbeau. Avec le concours de Roger Blin, Pierre Leproux, Pierre Delbon, René Farabé, Jean-Pierre Lituac, Yves Penaud, Pierre Constant, Anne Pérez. Prise de son, Pierre Simon et Sam Niesvisky. Assistante, Ève Augustin Henrault. Réalisation, Alain Barou.
C'était un numéro de Photogramme consacré à Tristan Tzara, par Jean-Marie Gerbeau, et réalisé par Alain Barou. Première diffusion le 14 novembre 1962 sur France 3 National.